Cette balado-diffusion est une production de Delta Media.
Et bienvenue à cette émission critique spéciale 007 James Bond.
Rétrospective aussi, historique, chronologique.
Oui.
On va essayer quand même d'être bref un peu, parce que je veux pas, on a quand même 45 ans de films. Puis même là, un petit peu plus, parce que Fleming a écrit avant les films.
Alors,
qu'avons-nous? Que pouvons-nous? Par où commençons-nous?
Eh bien, qui a créé ce personnage?
Alors, il se nomme Ian Fleming. Qui est-il, ce Ian Fleming?
Un ex-agent secret, il paraît.
Oui. Alors, ce cher ex-agent secret avait sévi pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout. Et quand il a pris sa retraite, il s'est mis à écrire sur sa vie, évidemment. Mm-hmm. Mais il a romancé, bien entendu. Et il a écrit beaucoup de nouvelles. C'est pas des romans. Beaucoup de petites nouvelles. Comme, je prends un exemple de, For Your Eyes Only. C'est un recueil de nouvelles. Le titre, For Your Eyes Only. Dont, Quantum of Solace est tiré. Le titre est tiré de ce roman. Alors, Ian Fleming, pour la petite histoire, le nom de James Bond, c'est spécial. Où est-ce qu'il l'a trouvé? Il était en vacances à Tahiti. Et il écrivait sur son fameux héros, là. D'ailleurs, un personnage qu'il avait connu pendant la guerre, pour de vrai. Fait que James Bond, ben, Monsieur X, il l'a connu. Il a vraiment procédé sensiblement comme ses romans. Pas aussi technique que ça, puis technologique, puis tout. Mais il n'y avait pas de nom. Il fallait qu'il trouve un nom fictif. Okay. Fait que là, il était en vacances à Tahiti, puis bon. Comment je l'appelle, ce bonhomme-là, maudit? Je veux un nom qui punch, tu sais, je veux quelque chose qui frappe. Puis, pendant ce temps-là, pendant ses temps libres, il lisait un livre. Un livre qui était écrit par Monsieur James Bond.
Oh!
Oh! Aussi simple que ça. Pauvre Monsieur James Bond, c'était un nobody, un écrivain qui avait aucune carrière, puis finalement, il est maintenant connu grâce au livre de Ian Fleming et au film. Ça, c'est pour la petite histoire. Alors, c'est plus vardant comme ça. Là, 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 on se promène, on aime ça, nos livres pointent, ils sont lus. T'sais. Dans les années 50, c'est la guerre froide, ça pointe.
Oui.
Ça ne fait pas, c'est pas évident. Mais là, à un moment donné, pour faire de l'argent, là, on va en faire plus. Plus vite, plus facilement. Fait que Fleming vend ses affaires à la Metro-Goldwyn-Mayer. Et eux, évidemment, vont adapter, on ne sait pas trop laquelle. Bon, on check, wing, wing, bang. Finalement, on va prendre Dr. No. C'est vendeur, ce Dr. No. On va starter de même. Mais tu sais, c'est un petit film, là. Un petit film, là, c'est pas... Hein. Puis il y a un nobody qui va jouer James Bond. C'est qui, ça? Sean Connery. On prend lui, il y a quelque chose, il dégage. C'est un ancien marine, puis il a travaillé beaucoup de job-in, pas beaucoup de carrière cinématographique. Mais il y a une prestance, il y a quelque chose.
Je t'arrête.
Oui, vas-y, je t'écoute.
J'avais cru comprendre qu'il y avait eu une version télé, avec un nobody.
Ah, ça par exemple, on continue.
Émission en noir et blanc. Vraiment, low budget, là. Genre, ça comprenait pas en tout. Je sais pas si c'est qui l'acteur, mais c'était...
Ah, tu... Me pose une colle.
Ouais. Et donc, c'était pas encore un film. C'était même, je pense, c'était des petites émissions de 15 minutes. Je me rappelle pas trop.
OK. Ah, ouais, c'est vrai.
Donc, il y aurait eu quelqu'un avant Sean Connery.
Oh, c'est bon à savoir, ça.
Puis, arrête-moi si je me trompe. Après Sean Connery, ou à quelque part entre Sean Connery et lui-même, y aurait-il pas eu un autre James Bond? Mm-hmm. Un genre qui est pas beau pendant tout. Désolé.
Oui, c'est George Lazenby.
Pas charmeur du tout.
George Lazenby qui a fait un seul film.
OK. Donc, on y
reviendra. On y reviendra, oui.
Ouais, okay. Donc, Sean Connery arrive pour Dr. No.
Dans le décor, pour Dr. No. Film qui est réalisé par... En 1962. Réalisé par Terence Young, qui, lui, va revenir. Les James Bond ont quand même leur clique de réalisateur. 3-4 seulement. En tout cas, en début de carrière. Fait que Connery revient. Et le gros du film, qu'est-ce qui fait le succès du film à l'époque, surtout en 1962, c'est Madame Bond Girl, Ursula Andress, qui était une mannequin à l'époque, et qui était assez dévêtue pour le temps, là. Ça, ouais. Ça fait toute qu'une tollée. ça a pogné, évidemment. Les messieurs sont allés voir le film. Hein? Les madames sont allées voir le film pour Shirley aussi. Mais grâce à ça, James Bond start sa carrière. Pow! Undress, les met sur la map. Là, le méchant, M. Dr. No, juste pour la petite histoire encore, avait été offert à un Suédois, un grand Suédois inconnu, là, qui était bon théâtre seulement, qui s'appelait Max von Sydow. Max von Sydow, lui, James Bond, film de guerre, puis d'action, ça l'intéresse pas, lui, il est au-dessus de ça. Puis, moi, mon chum, c'est Ingmar Bergman, puis je fais des films avec Ingmar Bergman, puis laisse-moi tranquille. Puis, d'ailleurs, c'est la meilleure, la plus grande collaboration entre un réalisateur et un acteur, c'est ces deux-là. Dont le 7e saut, puis blablabla, là, bon. Tous des films très intello, et 4e, 5e degré, là. Tu comprends rien, mais c'est pas grave. En tout cas, peu importe. Alors, c'est M. Joseph Wiseman qui a pris le rôle du Dr. No. Et Bernard Lee startait sa carrière en M. M.
Ah.
Le M.
Ouais.
J'en nomme pas d'autres lettres, là. Je nomme pas d'autres lettres. En passant, un qui a une grande carrière, c'est l'autre lettre que je t'avais. Lui qui a eu la plus grande carrière avec James Bond, c'est Q.
Oui, ben oui.
Monsieur Q.
Oui.
C'est lui qui a starté. Mais, c'est ça que je te disais en coulisses tantôt. En coulisses, en hors-onde. Monsieur est mort en 1999.
Oui.
Bon. Son dernier film, c'est The World Is Not Enough.
Oui. En plus, étrangement, dans le film, le personnage prenait sa retraite et il initiait à nouveau.
C'est ça. C'est vrai, exactement. Il présentait son... Son successeur.
Ouais.
Qui était John Cleese.
Ouais.
Le comédien réputé aussi comique. Sauf que Q, il a pas fait tous les films de James Bond. Évidemment, à part ceux qui sont ou qui est mort, là, c'est pour lui, c'est pas de sa faute. Quels sont les deux films qui n'a pas fait d'apparition?
Alors, je vais me risquer.
Vas-y, on t'écoute.
On ne vit que deux fois. On ne meurt que deux fois, mais je ne sais pas si c'est vie ou mort.
Ok, continue.
Et puis, disons...
Pour voir. Hein.
Live and Let Die.
Un sur deux. C'est bon? C'est bon, très bon. Live and Let Die, il n'y a pas fait d'apparition dans le film. Le premier film de Roger Moore.
Ouais.
Et l'autre, pour ça que j'en parle là, c'est Dr. No.
Ah.
Il n'y a pas de Q dans Dr. No.
Okay. Y a-t-il des gadgets?
De mémoire, pas beaucoup. Ben, le Dr. No, lui, en a de son côté.
Ouais.
Mais James Bond, lui, c'est un pauvre petit gars avec son petit fusil, puis on se débrouille. Alors, la musique de Dr. No, en 1962, on savait pas trop qu'on s'alignait. On n'avait pas déjà John Barry dans le collimateur, on savait pas que ça serait lui pour les prochaines années. Fait qu'on a décidé de donner ça à un dénommé jazzman du nom de Monty Norman, qui nous a donné la tune que tu nous as faite au début de l'émission.
Ouais.
Puis qu'on va entendre plus tard, là, peut-être. Là. Alors, ensuite, en 63, un an plus tard, vu le succès critique, pas public, ça n'a pas vraiment pogné. From Russia with Love, lui, il a pogné. Lui, il a vraiment pogné. Personnellement, je ne comprends pas beaucoup. Là. Il est moins bon, je trouve. Alors, en 63, Terrence Young réalise son deuxième film, avec Sean Connery encore. Et là, c'est tout des nobody. Ils ont plus ou moins de carrière, sauf Robert Shaw. Si vous voulez mettre un visage, Voyage Jaws, c'est lui le marin. Le gros capitaine.
Ouais.
Le gros capitaine, là. Robert Shaw joue un russe méchant.
Okay.
Bon. Ben, Bernard Lee, M, lui, est là pour un bout. Il va mourir en 81, Bernard Lee, puis son dernier film, ça va être Moonraker, si je ne me trompe pas. En 64, un an plus tard encore, à chaque année, il en sort un, Goldfinger, qui, selon plusieurs critiques et publics, est le James Bond par excellence.
Ok.
Je sais pas pour toi.
Je pense que je l'ai pas vu.
Tu penses que je l'ai pas vu?
Ouais.
Tu penses que je l'ai pas vu? Puis tu fais une émission sur James Bond?
Ouais.
Cool.
Ok, on va le dire tout de suite.
Vas-y, vois, toi.
Je suis un Roger Moore, malheureusement.
Ouais. Ok. Parce que carte sur table. Pow! Suite, là.
J'ai découvert, étant kid, James Bond.
Mm-hmm.
Et c'était Roger Moore, avec la Simon qui m'aimait.
Tu as commencé avec l'espion qui m'émerge.
C'est okay. Ça, puis j'ai vu ça.
Ça excuse rien, là, mais en tout cas.
Fait que ça, à un moment donné, t'arrives, puis là, c'est un festival James Bond l'été à télé, tu sais. Puis à un moment donné, t'arrives sur Sean Connery. Hein, qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là,
t'sais? Ben,
je suis un enfant, moi, là.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas la face pour ça. Puis, y a. Ben, c'est sûr, après ça, j'ai redécouvert Sean Connery. Et OK.
Mais toi, c'est émotif ton affaire, finalement.
Mais je suis capable de voir qu'effectivement, je comprends pourquoi le monde préfère Sean Connery aussi.
Non, c'est pas tout le monde. Non, il y a vraiment deux clans, là.
Mais c'est parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu le changement, là.
Dans tes doutes, tu vois.
Ouais. C'est que le monde disait, ben non, Roger Moore, c'est le saint.
Mm.
C'est Simon Templar à la télé, puis on aime ça de même, pourquoi changer ça, là? Puis Roger Moore, c'est pas Sean Connery, puis il ressemble pas pantoute.
C'est pas le même charisme, mettons.
Donc, j'imagine que peut-être là-dedans, il y en a une gang que ça finit par passer à pelule, parce qu'il a quand même fait 7-8 films.
Oui, il en a fait pas mal, plus que Connery. Hein.
Donc, c'est ça. Oui. Là, on revient à ce qu'on était.
Oui, on en était à Goldfinger, 1964. Oui. Le classique.
Donc, c'est pour ça, je les ai pas toutes vues, les Connery.
OK. Bon, ça, je pourrais être égal. Je les ai toutes. Comme j'ai dit dans ma critique de Quantum of Solace, je me suis vendu. Je les ai toutes achetées à 35$. Désolé. En VHS, en plus. Fait que c'est ça. Je suis pauvre. Non, c'est pas grave. Je suis riche d'esprit. En tout cas. Alors, celui-ci était réalisé par Guy Hamilton, qui lui aussi va revenir plus tard comme réalisateur. Connery était là. C'était Gert Frobe qui jouait le méchant Goldfinger. Le bedonnant Goldfinger qui voulait voler Fort Knox. Il y avait comme Madame, d'ailleurs il y a toujours eu les Bond Girls,
ouais.
Et la Bond Girl de ce film-là, c'était Honor Blackburn, qui jouait Pussy Galore. Pussy Galore va revenir dans au moins un film. Le titre m'échappe, là, je ne me rappelle plus, on va sûrement y revenir.
C'est son vrai nom, ça?
Non, Pussy Galore, c'est le personnage.
Okay.
Pussy Galore, si je ne me trompe pas, c'était dans Octopussy qu'il revenait.
Exactement, j'ai écouté un documentaire il y a quelques jours.
Non, je suis pas pire, je suis habitué. Et que je suis fort, merci. Alors, c'est ça. Elle va revenir plus tard, mais là, on est en 64. Beverly.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste l'actrice, mais le personnage, il est mort, puis là, elle en fait un autre, mais c'est le même personnage qui revient.
C'est le même personnage.
Ah
oui? Oh oui, elle revient. Okay. Alors, Thunderball.
Elle ne doit pas reconnaître James Bond.
Big Bang Pow, hey.
Non, ça va avoir à voir parce que c'est quand Roger Moore arrive, c'est toujours la même gang, c'est le même M et tout.
Oh, oui, c'est ça. Moneypenny, c'en est un autre ça, qui a fait un bon bout de chemin.
Oui, oui.
Méchant bout de chemin. Tout le monde s'attendait à ce qu'à un moment donné, il se French. Puis,
ouais, hein,
mais non, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. 65, Turn the Ball, retour de Terence Young à la réalisation. Son troisième. Connery là. Claudine Auger joue une bonne girl. Aldonfo Celli joue un méchant. Et c'est ça qui est ça. 1967, You Only Live Twice. Réalisé par Lewis Gilbert. Première apparition de Gilbert à la réalisation. Sean Connery fait sa 1, 2, 3, 4, 5, 5e apparition comme James Bond. Et première apparition du Spectre. On connaît tous le groupe Spectre. Spectre, non?
Mm-hmm.
Oui, plus ou moins. C'est les méchants. Une gang de gros méchants contre James Bond et toute la gang au complet. C'est Donald Pleasence qui jouait le chef de la gang.
Oui.
Et il s'appelait Blofeld.
Là de son chat.
Exactement.
Puis ça a inspiré Austin Power avec
Donald Pleasence. C'est ça.
Puis, si vous n'écoutez pas ça peut-être, les dessins animés de l'inspecteur Gadget.
Oui, et Mad.
Docteur Mad.
Docteur Mad.
Son chat ici.
Oui.
On ne voyait jamais à la farce.
C'est vrai. Oui, ben ouais. James Bond a beaucoup de petits amis, hein, ou de petits bébés, mettons. Il est éparpillé un peu partout dans la clique des arts. Alors, on est rendu là, à notre face qui pue, là. 1969. On Her Majesty's Secret Service. Au service secret de Sa Majesté. Connery est parti.
Pourquoi?
Parce que dans You Only Live Twice, il y a eu des complications d'ordre autant technique que juridique. Puis, finalement, premièrement, il était plus ou moins, ça y a fait mal. Là, il y a eu des problèmes physiques. Puis aussi, là, money, là, tu sais. Je suis tanné, là, de me faire mal, puis de te payer un contrat de misère, là. Salaire de misère. Fait que je m'en vais manger toute la crotte. Fait que, OK, bon, va-t'en, c'est pas besoin de toi, film, là. On est bien parti. James Bond, tout le monde connaît ça. Voyons, non, ouais. Si, bon, ouais, on va faire, nous autres, on va, ouais. Fait que James Bond, on va le marier. James Bond, il a besoin d'une fille. On va le marier, puis ça va être toute une histoire de vengeance, là, parce que les méchants vont tuer la fille. Parce qu'on veut pas que James Bond soit marié. Mais non, James Bond, c'est un homme à femme.
J'étais en train de me dire que dans le film où il se marie, c'est avec la fesse qui pue.
C'est la fesse qui pue.
Colin.
Josh Lazenby. C'est pas un grand film, je dirais. Là. Ouais. Le film est correct en soi. Là. C'est réalisé par Peter Hunt. Seule apparition, il reviendra pas pour monsieur. Là. Il est mal tombé, le bonhomme. Fait que, en 69, lui qui, à part Fasse qui pue, la zombie, il y a Diana Rigg et Telly Savalas. Vous vous souvenez-vous de Telly Savalas? Coco Man? Fait que lui, il reprenait le rôle de Blofeld, joué par Donald Pleasence.
Donc, ce personnage revient.
Blofeld revient, mais jamais, rarement joué par le même. Alors, on en est au retour de Connery en 1971. Ils ont bien vu que la Zambie n'est pas gagnée pour tout. Fait qu'ils ont décidé, « Ah, oh, bon, Connery, faut que tu reprennes bord. Ouais, let's go, viens-t'en, s'il vous plaît. » Fait que ça a donné « Diamonds are forever. Les diamants sont éternels. » Titre, et pas, en tout cas, providentiel. Alors, c'est réalisé par Guy Hamilton, qui est un retour à la réalisation 7 ans plus tard, après le succès critique et public du culte Goldfinger. Diamonds Are Forever ne pogne pas.
OK.
Pas vraiment. C'était plus la période est finie, en tout cas plus ou moins. Sean Connery était tanné aussi, il l'a fait pour l'argent, puis bon, on était à Las Vegas, puis on sentait un certain désintérêt. Là. Le film en soi était correct sans plus. Jill St. John jouait la Bond Girl, et Jimmy Dean jouait un multimilliardaire méchant. Et le film en soi était ordinaire. C'est à ce moment-là que ça a fait, bon, c'est assez. Hein? On est écœuré. Mais quoi que moi, personnellement, Sean Connery, c'est mon homme. Là, lui, il a décidé que c'est lui, il y a 8 années, on va faire notre vie ailleurs.
Donc, il venait juste d'en revenir.
Oui, oui, il a fait un film retour. Okay. Si on parle pas de l'autre que plus tard, c'est ça.
Bon, c'est ça, on va pas plus loin pour le moment. On va aller à une pause. Et au retour, ça sera la période Roger Moore. Restez là.
Cinécure Club Vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miron à Sainte-Foy. 418-682-3333 pour le film qu'il vous faut.
Et nous voici maintenant dans la période de Roger Moore.
Alors, on en est en 73, 2 ans plus tard. 2 ans plus tard avec ton homme. Monsieur Saint, et ça a donné Live and Let Die,
ouais.
Avec la toune que tout le monde aime de Paul McCartney and the Wings, qui est une des meilleures, je pense, des films de James Bond, là, personnellement, en tout cas.
Mais c'est vraiment pas mon film préféré, Bond.
Non, le film en soi est assez ordinaire.
C'est une comédie, quasiment.
Une histoire de vaudou, puis regarde. D'ailleurs, c'est là où Q n'apparaît pas, entre autres. C'est réalisé encore par Guy Hamilton, donc Hamilton a fait les deux. Il a touché aux 2 comédiens, Sean Connery et Roger Moore. Le méchant de service du film de Live and Let Die, c'était Yaphet Kotto, qui commençait sa carrière aussi, le noir qu'on a pu voir dans Alien, le numéro 1, Alien, là, le mercenaire, le gros méchant. Ben, le bum. Jean Seymour jouait la Bond Girl. Elle était belle à ce moment-là. elle a toujours été une belle petite madame. Là. Et elle a commencé sa carrière, elle était plus slim à ce moment-là. Alors, c'est ça pour Live and Let Die, qui a été scénarisé en collaboration avec Tom Mankiewicz. Mankiewicz qui va revenir plus tard aussi. Mais Richard Maybaum est toujours là. John Barry aussi. Mais là, nous avons ici... oh non, j'ai dit là, je me suis trompé de film. Ah, excusez, je me suis trompé. John Barry n'est pas là. Première fois que John Barry n'est pas là.
Okay.
Musique composée par George Martin. Là, j'ai pas fait de recherche, j'ai pas eu le temps. George Martin me dit quelque chose. Je pense que George Martin est un chum de Paul McCartney. Je crois. C'est là du Fab Four, tu sais, le style, la gang des Fab Four. Là. Je pense que c'était 5e Beatles ou quelque chose dans le genre. Mais là, regarde, je suis pas sûr, là.
Ben, écoute, on va l'appeler, on s'en va.
Ouais, c'est ça.
Appelle Québec, j'ai eu son numéro.
Ouais, c'est ça. Ok, c'est correct. Fait que, première fois que John Barry n'est pas là, fait qu'il va revenir pour le prochain, parce que, ça, comme tu dis, Living là-dedans, hein. So-so, hein. The Man with the Golden Gun. Ben moi, à la base, les films de Roger Moore, j'ai plus ou moins trippé. Là. Et j'avais pas son attitude. The Man with the Golden Gun, en 1974, un an plus tard, réalisé encore par Guy Hamilton, il y a Christopher Lee, qui jouait Scaramanga.
Mm-hmm.
Un des grands méchants, quand même.
Ouais.
Tu sais, c'est quand même des James Bond, de tous les James Bond, Scaramanga, on s'en souvient. Parce que quand même, Christopher Lee a une présence. Il y avait Britt Eklund, qui jouait la Bond Girl. Maud Adams, une deuxième Bond Girl. Maud Adams, qui va venir en Bond Girl aussi. Dans les Octopussy. Octopussy, 8 pattes, 8 filles. C'est ça le lien. Et il y avait aussi Harvey Vilches. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde, mais c'était Nick Knack. Le petit noir. Le petit...
Haïtien.
Le petit Haïtien, oui, c'est ça. Haïtien, c'est correct. Mais ça, c'était... on lui, on le voyait dans...
L'île Fantastique.
C'est ça, exactement. L'île Fantastique. Nick Knack. Il était machin là-dedans, je pense.
Oui,
c'est ça. Ça, c'est pour The Man with the Golden Gun, en 1974. En 77, trois ans plus tard... Oh, c'est long, là. Ça commence à s'étirer. The Spy Who Loved Me.
Oui!
Bon Dieu.
Que voulez-vous?
C'est ton film de Roger Moore?
C'est là que j'ai découvert.
Ah, OK, OK. Oh, OK, c'est juste nostalgie, là.
Ben là, écoute bien.
C'est pas ton film, quand même, des films de Roger Moore. C'est-tu ton film?
Je sais pas. Aujourd'hui, je suis moins sûr. Okay. C'est parce que là, t'arrives, t'es kid, tu vois ça. Sa Lotus blanche, gadget.
Oui, assez gadget, hein?
Plonge dans l'océan, ça devient un sous-marin. Puis moi, l'affaire, c'est que je l'aime justement l'attitude de Roger Moore. Aujourd'hui, je l'aime moins parce que là, je vois...
Trop détaché, je trouve. Moi, c'était trop détaché.
Mais tu sais, c'est son humour, tu sais.
Ouais.
Le fait de, je sais pas, moi, il se fait poursuivre en voiture, puis à un moment donné, il regarde le méchant, puis il te fait un salut, Pierce Brosnan apprend ça un petit peu aussi, hein.
Oui, Pierce Brosnan, moi, ce que j'avais de lui, c'était le lien des deux, tu sais, comme le mix des deux.
C'est ça, ouais.
On avait les deux.
Parce que Roger Moore, des fois, c'était trop léger.
Ouais, un petit peu trop.
Bon. N'empêche, là, c'est avec ça que je découvre James Bond, puis je l'aimais bien ce film-là.
Fait que ça, c'est en 77. Ça a été réalisé par Lewis Gilbert, qui revenait 10 ans plus tard, après avoir fait You Only Live Twice. Fait que, oui.
Et là-dedans, il y a un acteur qui fait un des méchants, le requin,
mm-hmm.
aux dents chromées.
Oui.
Il va revenir plus tard.
Oui, Richard Keel. Richard Keel, qui joue. Son nom de personnage, c'était Jaws.
Ouais.
Le requin en français, il l'appelle même le requin.
Ouais, ouais.
Okay.
D'ailleurs, Roger Moore et lui sont venus à Québec il y a 2 ans.
C'est vrai, pour la convention.
Il y avait une fille aussi avec eux autres, monsieur. Puis c'est quelle bonne gueule.
Ouais, une bonne gueule, entre autres, là, qui était vieillissante. Là. En tout cas, c'est ça, là. Alors, le méchant de service était joué par Kurt Jurgens. Le méchant s'appelait Carl Stromberg.
Oui.
T'en souviens?
Hein? Ben oui.
Ah, oui, c'est sûr. Alors, il y avait Barbara Beau, Bone, Richard Keel, évidemment. Robert Brown a joué dans le film. Pourquoi je le nomme, lui? Parce que Robert Brown jouait l'amiral Argerns. Argerns. On s'en sacre de son nom, de toute façon, des personnages. C'est le futur M. Fait qu'il a joué 2 personnages dans les James Bond, M. Brown. Robert Brown. Pas pire, hein?
On l'apprend.
Apprendre des choses de même qui sont inutiles, puis c'est pas grave.
Attends. Ben, moi, tant qu'à dire de quoi d'inutile.
Ben, vas-y, vas-y, ouais.
Cette année, il y a pas longtemps, je suis allé à Montréal pour ma job. Et qu'est-ce que j'ai vu?
Ici, c'est scénarisé par... co-scénarisé par Christopher Wood et Richard Maybaum pour The Spy Who Loved Me. La musique est de, non John Barry, mais plutôt Marvin Humblish, qui ne reviendra pas.
Bon.
Moonraker, 2 ans plus tard, en 1979, encore réalisé par Lewis Gilbert, qui lui, là, était assez flyé. Non,
ouais.
Trop flyé.
Ouais.
Trop.
Le requin revient là.
Ouais, le requin revient là, puis il vire gentil, puis full bébé, puis... dans l'espace, puis tout, puis
qu'était-ce que... 5-6 navettes spéciales.
Ah, gars, c'est trop, là.
Ouais.
C'était pas mal trop, là. Mais ça n'a pas tué la carrière de Roger Moore et de James Bond. Ils ont continué pareil.
Ouais.
Fait qu'il faut croire qu'il y avait des fans. Le méchant de service, c'était Michael Lonsdale, le français, qui jouait Drax, le méchant Drax. Louis Chills jouait la petite fille de service. Et Bernard Lee faisait sa dernière apparition en tant que M. Parce qu'il est mort en 81, comme j'ai dit tantôt. Alors, ça, c'était scénarisé par Christopher Wood seulement. Mais Baum n'avait pas scénarisé, adapté un roman de Ian Fleming. 1981, For Your Eyes Only.
Oui.
Rien que pour vos yeux.
Oui.
Ouh. Qui était scénarisé par... Première apparition de son nom dans un film de James Bond, de Michael G. Wilson, qui est maintenant rendu le producteur attitré avec Barbara Broccoli.
OK.
Première, comme scénariste, Michael J. Wilson. parce qu'avant, on connaît tous le nom de Albert R. Broccoli.
Oui.
C'est lui qui a produit tous les films de James Bond avant sa mort. Puis sa fille a pris la succession. Avec Michael J. Wilson. Donc ici, Michael J. a scénarisé Four Years Only en 81, réalisé par, première réalisation, parce qu'il en a fait plusieurs, malheureusement, John Glenn. John Glenn a fait... je regarde ça, là, c'est pas tous des bons films de James Bond.
Moi, j'ai aimé Rien que pour vos yeux.
Oui, non, c'est correct. Hein. Je dis pas que c'était pas bon. Mais c'est la première apparition de John Glenn comme réalisateur. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui en a fait le plus. 1, 2, 8 de même, 3, 4, 5... 5 réalisations de John Glenn.
Okay. Mes deux préférés de Roger Moore, c'est L'espion qui m'aimait et Rien que pour vos yeux.
Pourquoi celle-là? Pour Four Years Only?
Ouais. Je veux pas trop en dire sur Rien que pour vos yeux parce que je vais y revenir plus tard.
Ah, ok.
Mais disons que. Faudrait que je revoie Octopussy. Faudrait que je revoie Dangereusement Vaude parce que je me rappelle.
Dangereusement Vaude, il était solide quand même. Il venait un peu nulle part, mais il bougeait, ça grouillait.
Bon, puis là, mon pistolet d'or...
Lui, je l'ai pas trippé, moi. C'est comme un tête-à-tête, là.
Parce que l'espèce de char années 60 lit avec des ailes d'avion, là, c'était assez pas... Surtout que ça paraît que c'est un char...
Oh oui, hein, c'était assez évident.
En tout cas. Je sais pas.
Mais bon, tu sais, on aimait James Bond pour ses gadgets, là. Ouais. Entre autres, puis ses filles. Ouais. En tout cas. Fait que Roger Moore joue dans Four Years Only encore... Carole Bouquet, la française, faisait une bonne girl. Topol faisait quelqu'un. Julian Grover. Et il n'y avait pas de M dans celle-là. À cause de la mort de Bernard Lee, ils l'ont pas remplacé. Alors, la musique était de Bill Conti. Bill Conti qui nous avait donné. À l'époque, c'était sa grosse période à Bill Conti. Rocky, puis tout, là. Bon, ça pognait, là. Fait qu'il s'est essayé pour James Bond, puis ils ont dit salut, va-t'en, on t'aime pas. Le prochain, on te veut pas. Ils sont tournés chercher John Barry pour Octopussy en 83, deux ans plus tard. John Glenn est de retour pour sa deuxième collaboration. Maude Adams revient après The Man with the Golden Gun en 74. On est en 9 ans plus tard. Louis Jourdan jouait le méchant. Maude Adams, c'était elle qui jouait Octopussy. Avec toutes ses petites madames.
Oui.
Toutes les belles petites madames.
Harem pour Jim.
Oui, c'est ça, exactement, harem. Et là, on est rendu à la période où dilemme, là. Où on parle depuis le début, là,
oui.
La fameuse guéguerre. Ben, c'est pas de guéguerre. Moi, j'aime ça en faire une sorte de controverse, là.
En fait, c'est pas compliqué. Je l'ai déjà dit.
Vas-y, on réécoute l'explication à Danny.
Nous sommes dans la période...
Ouh, scène de fesses. Excusez, on est rendu à Casino Royale, là. C'est horrible.
Oui.
OK, excuse-moi.
Nous sommes dans la période de Roger Moore.
Mmh.
Et là, ils sortent parallèlement à Octopussy.
Mmh.
Un autre film avec Sean Connery.
Mmh.
Y avait-tu une raison? C'était-tu un anniversaire spécial?
Non. C'est juste une petite guéguerre, là.
OK, il y avait une guerre.
Une guéguerre.
Entre deux compagnies ou...
Entre les deux distributeurs.
OK. Bon. En tout cas.
Parce que Warner avait réussi à avoir les droits sur un roman. Okay. Ian Fleming.
OK. Dans ce cas-là, ça change peut-être ma façon
continue.
De voir. Mais c'est que moi, je me disais, vu qu'on est dans la période Roger Moore, ben lui, Sean Connery, était comme un hors-série. Mais là, si tu me dis qu'il y a vraiment une guerre et qu'il y avait les droits dessus, ben c'est vraiment une compétition. Là,
ben c'est une compétition parce que Ian Fleming, veut pas, c'est un roman de lui. Là. C'est à lui. Puis ils ont les droits de ce livre-là. Puis c'est un livre de James Bond.
Ouais. En même temps, je me dirais, ben, c'est quand même un hors-série parce que...
Mais il fait pas partie de la gang, c'est ça.
C'est pas
un MGM Studios. Là. C'est pas réalisé par Albert R. Broccoli. Là.
C'est ça, il était comme pas prévu d'un plan.
Non. Mais c'est ça, il est sorti en même période, même temps, 83.
Donc c'est pour ça que je m'amuse à dire que c'est un hors-série. C'est un...
Mais c'est quand même un James Bond.
Exactement.
Donc, on chicanera comme on voudra. Moi, personnellement, je dis qu'on est rendu à tel numéro, 22 ou 23e, je m'en rappelle plus. 22e, je pense, peux-tu? 22e.
Oui, tout à fait.
22e.
Quantum of Solace, c'est le 22e.
C'est ça. Et... Ben, 22e. 22e.
Trop tard.
OK, en tout cas, laisse faire.
Mais quel était ce film, d'ailleurs?
Alors, on parle ici de Never Say Never Again. Jamais plus jamais. Ah, c'était un titre, hein? Tout désigné pour Sean Connery.
Ça, c'est dans le temps que moi, j'étais kid, puis que je le voyais peut-être pour la première fois sur une affiche. J'espère.
Il était vieillissant. C'est ça. Il était vieillissant. C'était un retour, puis c'était une sorte de farce en même temps pour lui. Sean Connery, ces petites gaguères-là, il s'en sac. Fait que lui, ça lui faisait du bien de revenir à une sorte de Sean de James Bond un peu plus solide. Là. Mais il a essayé de faire comme Roger Moore, un peu plus, tu sais, détendu.
Ouais.
Ça a plus ou moins fait l'affaire, mais on, peu importe. On a quand même fait la connaissance d'une belle petite Bond girl qui s'appelle Kim Basinger.
Ouais. Oh, oui.
Mm-hmm. Kim Basinger a fait une Bond girl en 83. Le méchant a été joué par Klaus Maria Brandauer. Max von Sydow, finalement, quand il a dit non à Dr. No, il est revenu, là. Hein? Autant qu'à niaiser, on va niaiser longtemps. Il va jouer Blofeld.
OK.
Le Spectre.
D'accord.
Hein?
Donc, il n'est pas tout seul, ce bonhomme.
Blofeld, il fait des apparitions pas mal.
Le bonhomme qui a un chapeau melon, là, que... puis c'est une scie, dans le fond.
Ouais, ouais, ça, c'est dans Goldfinger.
OK. C'est beau.
OK, merci. Edward Fox va faire sa première apparition comme M. Parce que lui, il va venir. Si je ne me trompe pas. Là, j'ai un blanc là-dessus. Là. La musique, évidemment, n'est pas reprise par John Barry, parce que John Barry était sous contrat avec la MGM. Fait que là, c'était Michel Legrand qui a fait la musique. Là, on porte jamais rarement attention quand on écoute un James Bond à la musique. Là, à part le... D'ailleurs, il faudrait que j'écoute le film pour voir si on l'entend, ça. Je serais curieux. Évidemment, bon, le scénariste n'est pas non plus Richard Maybaum, parce qu'il était sous contrat aussi à la MGM. Fait que c'est Lorenzo Semple Jr., un nobody que personne n'a revu. Bon, pas grave. Alors, on reprend le cours de l'histoire en 85, A View to a Kill, Dangereusement Vôtre, dernier de Roger Moore.
Puis, fallait, parce que lui, c'est...
Ouais, c'est, il commençait à être fatigué un petit peu. Hein. Ça paraissait aussi. Alors, c'est scénarisé encore par Richard Maybaum. Là, on l'entend souvent, son nom, il revient souvent. On est en 85, là, déjà. Là. Et c'est toujours Michael J. Wilson, qui, lui, est producteur exécutif sur les films. Parce que Herbert est encore là. Alors, on est en 85, troisième collaboration de John Glenn. Christopher Walken va jouer le méchant de service. Le méchant qui se nomme Max Zorin. On se souvient de son nom. Et il était, suivi de très près par sa bras droit, Grace Jones, alias Mayday. Qui, elle, était lettre en maudit.
Ouais, c'est ça, je l'ai dit.
Mais dans le film, il la vendait comme Sex Machine, là, féline, sauvage. Rawr. Ouais. Mais c'est ça, c'est ça.
Alors, après la pause. Ce sera le tour des trois derniers candidats à avoir incarné l'agent 007. Restez là.
Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les cas de possession. Alors écoutez Frequence, l'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net.
Et nous voici de retour pour le dernier bloc de cette rétrospective de 007 James Bond.
Alors, en 87, finalement, Roger Moore a tiré sa révérence. Et c'est M. Timothy Dalton qui a pris la relève pour le film Living Daylights. En français, je ne me souviens pas. Ça n'a pas pogné du tout, d'ailleurs. Les deux prochains James Bond, c'est comme George Lazenby, on ne veut pas s'en souvenir.
Ouais. Mais... il paraît, à ce moment-là, qu'il disait que Timothy Dalton était le plus proche du personnage inventé par Ian Fleming.
C'est vrai?
Aussi froid que qu'est-ce qu'il était censé être.
Mais on veut pas que ce soit froid, là.
Ben, je sais bien.
Ben, c'est quand même, Sean Connery, il est pas chaud.
Non, c'est ça.
Hein? En tout cas, il sautait sur ce qui bougeait aussi, là. Mais en tout cas... excusez. En tout cas, ben,
Ben, bref, j'ai Timothy Dalton, je les ai pas vus, puis ça me tombe pas.
Non, ben, moi, je dis pas que j'ai commencé ma carrière James Bond avec Timothy Dalton, ça serait pas bon pour mon ego.
Non.
Mais j'ai un souvenir assez vif d'avoir vu au cinéma Lessons to Kill, qui est le deuxième avec Timothy Dalton. Je l'avais vu avec ma tante, ça a fait. J'étais jeune là, à ce moment-là. Là, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? Wesh! C'est bien pas bon! C'est plein d'incohérences. Là, c'était comme trop. Là. Un peu comme tu me parlais dans le balado de tantôt là, de Superman. Là. 3.
Ouais.
Tu sais, les deux bonhommes piétons qui se tapent dessus. Hein. Mm-hmm. C'est le même principe. Voir un dix-roues faire un well à la fin, comme ça, là, tu lèves le nez, puis les deux roues d'en arrière restent encore sur la route, là, ça marche pas. Ou faire du, je sais pas comment on appelle ça, là, rouler sur le côté avec un dix-roues pendant que le missile passe en dessous de toi. Non, excusez, là, mais c'est comme trop. Ça, puis Moonraker, c'est pareil. Bon. Ça fait du bien, là, une petite montée de lait. Alors, ça, c'est la période qu'on veut pas souvenir, 87 à 89. Living Daylights et Lessons to Kill. Il y avait pas grand-chose à souvenir. Alors, Lessons to Kill, sa raison d'être, c'est juste parce que Felix Leiter, le collaborateur américain, genre l'alter ego américain de James Bond, se fait pas mal bouffer par des requins. Hein. Puis James Bond veut le venger.
Ok.
C'est tout.
C'est pouvoir des requins pour rire.
Oh oui. Oh oui, c'est ça. Un méchant quelconque qui était joué par Robert Davey, qui, lui, si vous voulez le voir, c'est un des agents Johnson dans Die Hard. Le premier de Die Hard, agent du FBI. Là. Bon. C'est lui qui décide de bon, tiens, Félix, tu vas servir de bouffe à mes requins. Puis on le descend dans la cale, puis c'est bien, bien bon. Fait que. Timothy Dalton, c'est la deuxième apparition et dernière apparition. Et on voyait pour une des premières fois Benicio del Toro.
Oh, oui.
Il joue dans le film.
Oui.
Il joue un petit méchant, là. Un kidem méchant.
J'ai dit oui, puis j'ai même pas vu le film, mais dans mes petites recherches rapides, j'ai vu son nom.
Eh oui, Del Toro en 89, on y voyait à face. Alors, Robert Brown jouait Monsieur M dans ses films, puis c'est ça qui est ça. Ah, c'est pas mal la dernière fois qu'on va le voir lui aussi,
ouais.
Pour d'autres raisons. Alors, finalement, à Lessons to Kill, là, les producteurs ont fait ouf, c'est pénible, hein? C'est dur, James Bond, ça pogne plus. Le monde ne veut pas avoir James Bond. Fait qu'on va attendre un petit peu.
Ouais, je pense qu'on prend un gros break.
Un gros break de 6 ans. Là, on veut être... Mais premièrement aussi, on commence à épuiser un peu les ressources de Ian Fleming. Là. On étire la sauce un peu. Fait que là, on sait pas trop où on s'en va. Puis finalement, on va... 6 ans plus tard, ben là, ça le fun. Un petit James Bond, puis hein, pourquoi pas. Puis on va essayer de chercher quelque chose pour faire plaisir à toutes les fans. Même Roger Moore et Sean Connery.
Ouais.
C'est pas évident. George Lazenby, on s'en sert. Avec Pierce Brosnan, il me semble qu'il a l'air de... Il a du bon sens, lui, hein? Il me semble qu'il a de l'allure. Il y a une petite binette, là, puis les femmes vont l'aimer. Il a l'air propre. Fait que... 95, GoldenEye.
Oui.
C'est un pur produit qui n'est pas de Ian Fleming.
OK.
Fait que on a un James Bond sans Ian Fleming. Ben, façon de parler, évidemment. Alors, c'est réalisé par Martin Campbell,
mm-hmm.
qui était plus ou moins connu à ce moment-là,
mm-hmm.
qui a fait un travail honnête. Tout à fait correct. Brosnan a fait une belle job.
Ouais.
Mais le reste du film était so-so.
Et moi, comme j'étais un James Bond gadget, j'étais déçu. T'sais.
Ben, il n'y avait pas gros gadget. T'as pas le gros satellite à la fin, là.
C'est ça. Et je n'irai pas plus loin parce que je vais en parler plus tard.
Ben voyons.
Parce que moi, j'ai des liens.
Ah, gars, les experts et tout, le sacrifice. Bon, OK. Fait qu'on continue Ben là, on va parler des petites bangers parce qu'il y avait du potentiel quand même là-dedans. Là. Même s'ils n'ont pas fait trop d'apparitions à part dans Exorcist 4. On parle ici de Isabella Skorupko, qui faisait Gaëta Mannequin à l'époque, une petite hongroise ou polonaise ou pays de l'Est, en tout cas, peu importe. Là, qui était présentable.
Mm-hmm.
Mais c'est tout. Sa carrière au cinéma n'a pas fait long feu. Et il y avait aussi Fanke Jensen. Mais qui est-elle? Si vous voulez savoir c'est qui, écoutez les X-Men. C'est elle qui joue dans le troisième, la grosse méchante. Là. Comment c'est quoi son nom? Là?
La grosse méchante.
Phoenix.
Ouais.
C'est ça. C'est elle.
Ah oui?
Oui, c'est elle dans le film.
GoldenEye.
Elle aux jambes serrées. Ben, c'est elle qui fait la prise de jambes, qu'est-ce que je te dis? Bon, en tout cas. Fait que Judi Dench fait sa première apparition en M. Oh, une femme!
Oh!
Oh! Oh, Colin, hey, là, hey, c'est pas drôle, là. Hey, on rit plus. Ah, qu'est-ce que tu veux? On est à l'ère du féminisme. Alors, faut que M ait de la pogne. Faut que ce soit une femme. faut qu'on le tienne en laisse, le bonhomme. Là,
faut remettre James Bond en place.
Ouais. C'est ça, faut le remettre en place. Là. Fait que là, évidemment, là, Richard Maybaum n'est plus là, n'est plus en ligne, n'est plus là. Terminé Maybaum, son travail sur License to Kill, celle de tuer. Fini. Alors, c'est scénarisé par Bruce Fernstein et Jeffrey Kane. La musique est de Eric Serra. Et j'ai écouté la trame sonore dernièrement, et c'est vraiment à poche. La musique d'Eric Serra sur James Bond, c'est du pipi cacapouelle, genre Luc Besson pour enfants. Il devrait rester avec Luc Besson. Ben, d'ailleurs, il est resté avec Luc Besson, parce que Serra, il a été agoupé dans le cul dehors. On n'aime pas. Ça a donné Tomorrow Never Dies, en 97, 2 ans plus tard. Fait que là, faire un James Bond, ça a l'air in. Puis c'est comme, je sais pas, un cadeau qu'on te fait à la réalisation. On dit, veux-tu faire un James Bond? Ah oui, merci, je fais faire partie de la légende. Fait que ça a été donné à Roger Spottiswoode. C'est ça, Under Fire en 82-83. Ou ne tirez pas sur ma mère qui a deux fois comme fils, Sylvester Stallone, je sais pas trop en tout cas. Ce style-là. Fait que Tomorrow Never Dies. Pas sûr.
Ben, c'est ça. Là, avec GoldenEye, il était vraiment prudent. Là, il a recommencé à préciser.
Ouais.
Et là, on bouge pas trop. Tomorrow Never Dies, leur mêlée gadget.
Ouais. Q est toujours là.
C'est ça. Oui. Très content de leur revoir.
Là. Ben, il a toujours été là. Je ne l'ai pas nommé, mais il est toujours là. D'ailleurs, le nom, j'ai-tu nommé, il s'appelait Desmond Lamelin. Ok, excusez. Bon. Bref. La distribution de Tomorrow Never Dies, c'est Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Terry Hatcher, qui à l'époque était in, et belle petite madame qui jouait dans les Superman de la série, là, à la télévision.
C'était un je parlais.
Lois, c'est je sais pas qui.
Crime, qu'est-ce que ça me donne des frissons,
ça. Ok, bon.
Non, mais c'est parce que hier, Marc me parlait d'elle, parce qu'on parlait de Superman, puis elle faisait Lois, justement. Lois dans la série.
Ouais, Lois, c'est, ouais. Ouh, Colin, c'est pas grave. Ok, c'est correct.
Tu sais, j'avais jamais allumé. Tu viens de me. Faire allumer que c'était. Tu sais, je l'écoutais tantôt, là, tu sais, genre. Ah!
Ok, ici, c'est Twilight Zone, là. Bon. Fait que, on va revenir à nos moutons.
Ouh!
La musique était. Va être reprise, bah, vu que Sarah a été sortie. Salut, elle dégage. C'est David Arnold, qui est plus ou moins connu à l'époque. Stargate, il était pas mal une de ses grosses cartes de visite. Mais à partir de 97, David Arnold va rester pour les prochains. Fait que là, la suite. Bon, alors, ici, la scénarisation a été reprise par Bruce Fernstein. Seulement, c'est juste lui qui a scénarisé Tomorrow Never Dies. The World Is Not Enough, 99, 2 ans plus tard. Réalisé. Bon, comme je disais, c'était un cadeau de faire un film. Là. Fait que là, maintenant, c'est les réalisateurs qui ne reviennent pas. Le Michael Apt, qui est un réalisateur correct, mais qui lui est plus porté vers le drame, va prendre les rênes de The World Is Not Enough, qui est un film correct.
Oui.
Okay. Ben, bon potentiel.
En fait, c'est ça. GoldenEye, ils ont resté prudents, ils bougent pas trop.
Mm-hmm.
Tomorrow commence à avancer un petit peu.
Oui, ça grouille un peu plus. Ouais.
Puis lui, comme un équilibre. T'sais.
Lui, c'est comme un mix, ouais, une sorte d'histoire interplanétaire, quasiment. Là, puis plus nucléaire. Puis là, on commençait à s'aligner vers des affaires un peu plus.
Puis, quand ils sont emmenés, il y avait James et Sophie Marceau.
Mm-hmm.
Ils sont comme dans une situation plus dangereuse. Ben là, c'est pas juste genre, je suis James Bond, je me sors de tout. Il y a comme un peu plus d'émotion, si on veut.
Ouais. Et ça, c'est. Si je pense que je me trompe pas, mais c'était la première fois qu'on avait une méchante.
Elle était. Ben, Octopussy.
Non, Octopussy, c'est pas une méchante.
OK.
C'est pas une méchante. Oh non. Ben, elle l'aime pas beaucoup. Mais. C'est ça. Bon. Fait que Sophie Marceau, qui jouait une belle petite Madame Bond Girl.
Oui.
Hmm? Ben oui, ouais, c'était correct. Denise Richards, c'est correct. Mais elle, c'est juste ça qu'elle est capable de faire. Là.
Ouais.
Se montrer. Fait que bon, au niveau talent, on repassera. Robert Carlyle va jouer le méchant qui sent rien.
Mm-hmm.
Qui est le chum de Sophie Marceau, je pense, dans le film, si je ne me trompe pas. Je
oui.
Ça, hein?
Oui.
Je suis loin un peu ce film-là. Là. Mais il me semble que j'avais aimé ça. Judi Dench reprenait M. John Cleese? Ben oui, John Cleese est là. John Cleese va prendre le rôle de Q. Puis lui, il s'appelle R. R. Comme la lettre R. C'est cute. Mais c'est sûr, hein, c'est la suite. C'est normal. Puis ça, c'était là, comme tu disais, qu'on passait le flambeau. Mm-hmm. Pour The Word Is Not Enough. Ça, c'est scénarisé par Neil Purvis, Robert Wade et Bruce Fernstein. Dernière fois qu'on va voir son nom à lui, Fernstein. Wade et Purvis vont venir pour les trois prochains. Mais vont être aidés par Paul Haggis pour Casino Royale.
Oui.
Auparavant, il y a Die Another Day, où il y a juste Wade et Purvis, en 2002. Réalisé par Lita Maori, qui lui avait le vent dans les voiles avec son histoire de Hans War Warriors, là, Nous étions guerriers. Qui est un film très bon d'ailleurs, je vous conseille. Mais là, Lita Maori n'avait ben trop mis. Premièrement, c'est pas juste lui, c'est pas juste de sa faute. Là. C'est la faute de toute la gang au complet. Premièrement, Brosnan, lui, arrête pas de dire, parce que c'est son dernier film aussi de James Bond, arrête pas de dire qu'il voulait revenir à quelque chose de plus solide, là, terre à terre, là, réaliste. Mais il n'a pas été écouté. Puis, évidemment, les producteurs de leur bord leur disent, voilà, il demandait ben trop cher, puis on l'a flushé par cause de ça, puis finalement, il y a une guéguerre. Là. Puis là, ça a donné un film broche à balle, un peu trop, puis un char invisible, c'est comme.
Yeah. J'ai dit tantôt que je suis amateur de gadgets, ben là, on a fait une overdose.
Ah, là, ça avait pas de bon sens, là. Ça avait juste pas de bon sens. Là. Au moins, il y avait Halle Berry.
Puis c'était un film, un clin d'œil au passé, parce que c'était le 20e anniversaire.
Ouais, mettons, 20e film de la MGM. On va faire ça, on va dire les mots, là. MGM. C'était le 20e.
Ouais.
Puis la toune de Madonna avait du potentiel. Elle était bonne.
Oui.
Moi, je l'ai trouvé correct. Halle Berry, elle l'a trouvé très correct aussi. Mais pour d'autres raisons.
C'est ça.
Bon, d'ailleurs, il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle était tellement correcte qu'elle pourrait avoir sa franchise à elle. Comme ses films à elle. Je suis sûr qu'il y a des hommes qui se diraient pas non. Mais on était maintenant en 2008. 6 ans plus tard, Halle Berry est passée à d'autres choses. Là. La petite madame. Elle avait gagné un Oscar, d'ailleurs, un petit peu avant. Pour le bal du monstre. Ouais. Puis elle vivait sur sa gloire. Puis depuis ce temps-là, il se passe pas grand-chose, la petite Berry. Là. Enfin, bref. Fait que là, on a attendu un petit peu. Là, 3 ans. C'était comme trop de l'air de day, là. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Fait que, ben, évidemment, Pierce Brosnan ayant parti, il faut choisir quelqu'un d'autre. Hein?
Ouais.
Finalement, on va innover aussi. Il faut toujours quelque chose de nouveau. Fait que notre bande, là, notre James Bond, il va être blond. On va le faire blond, puis on va starter au début.
Ouais.
La genèse de James Bond.
Et là, je me rappelle de nos commentaires. James Blonde.
James Blonde, entre autres. Puis, personnellement, moi, je n'étais pas sûr non plus.
Non, puis il n'y a pas la gueule.
J'avoue honnêtement, je n'étais pas sûr. Ça, puis... Mais il a confondu tout le monde. Hein.
Ah oui.
Ah, tout le monde. Casino Royale est un succès retentissant sur tous les niveaux.
Ouais.
Moi, personnellement, Pierce Brosnan faisait un meilleur mix des deux.
Oui.
Daniel Craig est un excellent James Bond, mais il rappelle plus Sean Connery, je trouve.
Moi, ça m'a pris peut-être une demi-heure de m'habituer à lui.
Okay.
Mais une fois, je me suis habitué, là.
Ben, moi, j'étais vendu à Connery, fait que j'ai pas eu de misère avec Daniel Craig. Alors, même sa couleur de cheveux, je m'en sac.
Ouais, ben, c'est ça.
C'est pas important.
De toute façon, ils sont pas si blonds que ça. On le regarde présentement.
Ouais, pas tant que on regarde Casino Royale, puis.
Bon. Justement.
Et gadget en base, hein?
Ben non, justement, c'est pas un film à gadget. Là.
Non, je sais.
Puis, ça faisait du bien. J'ai dit tantôt, j'étais un gars gadget, overdose dans la NED.
Non, mais c'est...
Donc là, tant mieux s'il n'y en a pas trop.
C'est justement. Ils ont compris quelque chose. Ils ont compris. On va aller chercher quelqu'un intelligent à la scénarisation. Paul Haggis est arrivé à la rescousse de Robert Wade et de Neil Purvis. Puis, on va aller au-delà du mythe.
Exactement.
On va aller voir avant le James Bond, avant qu'il devienne homme à femme. Fait que c'est un homme émotif, brut, dur. Puis que les gadgets, il n'y en a pas, là.
C'est ça.
Et c'est l'homme qui prime.
C'est
ça. Puis Casino Royale, c'est un running gag, mettons, parce que c'était une comédie dans les années 60.
C'est ça, on n'a pas parlé tantôt.
On n'a pas parlé parce que c'est pas un James Bond, tu sais.
C'est ça.
Mais dans les années, à la fin des années 60, Casino Royale... A eu son adaptation, entre guillemets, là, avec entre autres James Bond. James Bond, excusez. Oups, c'est le méchant lapsus.
Jimmy Bond.
James Bond. Il y avait pas Clouseau, mais voyons.
Woody Allen.
Poirot. Ou en tout cas, c'est ça. Tu sais, il y avait des personnages. Sherlock Holmes, peut-être, je ne me rappelle plus. Mais tu sais, il y avait plusieurs à super agents. Wow. Puis c'était toute une niaiserie. C'est une comédie. Là. Comme tu dis, Woody Allen était là. Puis les noms m'échappent. Là. Je les vois dès que je revois leur visage. Là.
Pas rien.
Moi, ça, c'est pas grave. Là, Casino Royale. On revient à la base.
Oui.
Casino Royale qui est réalisé pour la deuxième fois. Martin Campbell.
Ouais.
Ils sont allés retourner le chercher parce qu'ils voulaient être sûrs de leur chose. Veux pas, Daniel Craig, c'est un gros morceau. On change de bonhomme. Fait qu'on a besoin de quelqu'un qui connaît la franchise. Puis on n'ira pas chercher des vieux croûteurs comme John Glenn. Là,
donc, GoldenEye qui avait réalisé.
Mm-hmm.
Et là, on a comme deux films dans lesquels il n'y a pas beaucoup de gadgets. Ou très peu.
Exact. Ouais. Exactement. Excusez, je range mes ongles. C'est pas correct.
Et je ne peux pas aller plus loin car je vais terminer cette grande parenthèse de lien de film dans l'autre.
OK. C'est bon. Fait que là, le méchant de service, c'est Mads Mikkelsen. Il porte bien son nom. Il est mad. Mm-hmm. Il est assez mad. Eva Green joue dedans. Jeffrey Wright va jouer Félix. Première fois que Félix est noir.
OK, OK. C'est ça la fin.
Première fois qu'il est noir. Avant, c'était un blanc.
OK. Méchant,
ouais. Ouais, bah, pourquoi pas. Judi Dench, c'est une femme.
Ouais, ouais.
Hein? M a changé de couleur. A changé de sexe. Okay.
Et c'est la même M que les Chris Brosnan.
Oui. M, c'est ça, mais depuis GoldenEye, là, c'est la même, 95. Fait qu'elle est en.
Ben, elle fait la job.
Oui, elle est bonne, elle est solide. Ouais. Elle est vraiment solide. Fait que là, on serait rendu à Quantum of Solace.
Wouh!
Mais là, l'épisode est fini. Oh, c'est plate. Hein? Je vous dirais, écoutez la prochaine émission qui va être la critique de Quantum of Solace.
Ouais.
Pas pire, ça serait bon, ça.
On n'a pas le choix. Fallait décortiquer tout.
Parce que l'émission est longue. Ouais. Je vous l'avoue, mais. James Bond, c'est une icône, il mérite d'avoir son émission.
Ouais.
Ça fait longtemps qu'on attendait cette émission.
Ouais. Alors, surveillez, ça prendra pas grand temps que l'autre émission va arriver.
Mm-hmm.
Quantum of Solace.
Quantum of Solace.
À suivre.
Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.deltar.net.